Des circonstances ont empêché Frère Porter de vous faire part de son message. Je suis Frère Swick des 70 et il m'a été demandé de donner son message. Il m'a été demandé de parler du chapitre 17 qui concerne l'uniformité et l'adaptation, l'Église étant devenue une vaste organisation internationale couvrant plus de 170 pays. Ses dirigeants, partout dans le monde, font face à des centaines de situations uniques auxquelles aucune réponse toute prête ne se trouve dans le manuel d'instruction. Aujourd'hui, les pieux et les paroisses fonctionnent au sein de systèmes politiques et légaux, et dans des conditions géographiques et des situations économiques très variées. Ce qui se fait facilement dans la région métropolitaine de l'Utah peut être difficile ou impossible à réaliser dans certaines autres parties des États-Unis et du monde. Cela étant, les frères veulent assurer les dirigeants partout dans le monde qu'ils ont le privilège de suivre l'esprit et de faire certaines adaptations dictées par le bon sens au programme de l'Église. Le chapitre 17 a été inclus dans le manuel pour aider les dirigeants à mieux décider quand des adaptations locales sont appropriées et quand elles ne le sont pas. Pour illustrer l'ampleur du défi, ce schéma décrit la taille géographique d'une paroisse typique de Salt Lake City, environ un demi-kilomètre carré ou quelques rues. Maintenant, regardez la taille d'une paroisse moyenne aux Philippines, environ 93 kilomètres carrés ou environ 425 fois la taille d'une paroisse de Salt Lake City. Comme les paroisses des unités situées aux États-Unis ont en moyenne moitié moins de membres que dans ce pays, cela signifie qu'il y a moins de membres aux Philippines sur un territoire beaucoup plus grand. Mais ce problème ne se limite pas aux régions hors des États-Unis. Regardez la taille des paroisses dans l'interrégion nord-est de l'Amérique du Nord. Environ 928 km², soit environ 1800 fois la taille d'une paroisse de quartier à Salt Lake City. Ces distances à parcourir rendent l'administration de l'Église difficile et exigent des ajustements. Le schéma suivant montre le pourcentage de membres pratiquants qui ont un téléphone ou une automobile dans deux pays en développement de l'Église, dans des continents différents. Avec seulement la moitié des membres équipés du téléphone et seulement un quart possédant une automobile, les difficultés à administrer ces paroisses et ces pieux très étendus sont considérables. Dans ces circonstances, les dirigeants doivent simplement sentir qu'ils ont l'autorité de faire des adaptations sous l'inspiration de l'Esprit. Cependant, alors que certaines adaptations sont nécessaires, il y a certains éléments de l'Église sacrés, révélés et fondamentaux qui ne peuvent être changés à la discrétion des dirigeants locaux. Si vous consultez le chapitre 17, vous remarquerez qu'il est divisé en deux sections principales. La première concerne les choses qui doivent rester uniformes partout dans l'Église. La seconde indique les situations qui permettent aux dirigeants locaux de faire des adaptations. Maintenant, je ne vais pas discuter en détail de la liste des choses où l'uniformité est requise, mais lisons-la ensemble. Les Écritures, les commandements et les principes, la pureté de la doctrine, les réunions de Sainte-Cène et l'horaire des réunions du dimanche, les conférences, c'est-à-dire les conférences générales de pieux et de paroisses, l'œuvre du temple dirigée par les clés du président de l'Église, les procédures gouvernant les commissions disciplinaires, les registres et les rapports, les ordonnances et le programme unifié de l'Église. Ces éléments doivent rester uniformes partout dans l'Église, conformément à la mission doctrinale, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ou, comme le Seigneur le dit dans la Révélation moderne, « Soyez un, et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi ». L'Église doit avoir le même esprit, le même ressenti et la même structure fondamentale partout dans le monde. La deuxième section est intitulée « Situations qui peuvent donner lieu à une adaptation locale ». Dans le premier paragraphe, il est dit que les adaptations doivent se produire dans les domaines principaux suivants. Dans les programmes des auxiliaires, la forme et la fréquence des réunions administratives et des activités. Plus loin dans ce chapitre, on aborde aussi l'organisation de l'enseignement au foyer et des visites d'enseignement. Les conditions qui permettent aux dirigeants locaux de faire des adaptations sont regroupées en cinq catégories générales. La première, intitulée « Situation familiale », s'applique à chaque unité de l'Église dans le monde. Partout, Les dirigeants doivent tenir compte des situations familiales quand ils organisent des paroisses et des branches, qu'ils planifient des réunions et des manifestations et qu'ils font des appels. Par exemple, quand mari et femme travaillent tous les deux, ce qui est le cas dans beaucoup de pays du monde, ou quand ils ont plus d'un travail, la charge totale de leur appel doit être réduite en conséquence. On ne doit pas demander aux membres de faire des sacrifices familiaux excessifs pour œuvrer dans des appels ou soutenir des programmes et des activités. La deuxième série de situations concerne les transports et les communications. Des millions de nos membres dépendent souvent de transports publics coûteux, de vélos ou de la marche pour se déplacer. Beaucoup n'ont pas de téléphone ou de connexion électronique. Par conséquent, nous ne devons pas attendre que les mêmes résultats puissent être accomplis dans chaque pays. Quand les moyens de déplacement et les communications sont limités, il faut faire de nombreuses adaptations. Les réunions administratives, telles que celles du Grand Conseil, peuvent se tenir moins souvent. La fréquence d'activités peut être réduite. Enfin, l'enseignement au foyer et les visites d'enseignement peuvent être adaptées. Par exemple, l'évêque peut déterminer quelles familles vont recevoir en priorité l'enseignement au foyer et faire les affectations en conséquence. Les visites des instructeurs au foyer et des instructrices visiteuses peuvent être alternées de mois en mois afin d'utiliser au mieux une ressource rare et si nécessaire dans les endroits où ces conditions s'appliquent. Mari et femme peuvent faire équipe pour rendre visite et instruire une famille donnée. Ces possibilités d'adaptation à l'enseignement au foyer et aux visites d'enseignement qui sont appropriées là où il n'y a pas suffisamment d'instructeurs au foyer, détenant la prêtrise pour accomplir des visites normales, sont abordées au chapitre 7.7.4.3. La troisième situation permettant l'adaptation est la petite taille de collège ou de classe. Il faut normalement 300 membres pour créer une paroisse aux États-Unis et au Canada, mais seulement 150 dans d'autres régions du monde. Habituellement, ces paroisses ont moins d'assistance de jeunes et d'enfants. Beaucoup de paroisses ont très peu de grands prêtres, en plus de ceux qui servent dans l'épiscopat ou le pieu. Quand c'est le cas, les anciens et les grands prêtres peuvent se réunir ensemble dimanche dans une seule classe, bien qu'ils ne forment pas un seul collège. S'il n'y a que peu de jeunes dans une paroisse, le même principe s'applique. Les jeunes gens peuvent se réunir en une seule classe, pas un seul collège, mais une seule classe. Les jeunes filles peuvent, de la même façon, se réunir ensemble jusqu'à ce que leur nombre soit assez grand pour les répartir selon les groupes d'âge traditionnels. Bien sûr, la même chose s'applique à la primaire. Dans certains cas, il ne peut y avoir qu'une seule classe de la primaire pour tous les enfants, ou peut-être une classe de la primaire pour les plus âgés et une autre pour les plus jeunes, ou des divisions qui ne soient pas faites année par année, mais peut-être tous les deux ans, comme la présidente de la primaire en décide avec l'évêque. J'ajouterai maintenant que des dirigeants locaux font déjà ces choses dans bien des endroits du monde, mais le nouveau manuel les assure maintenant que, ce faisant, ils sont en accord avec les directives des dirigeants de l'Église. La quatrième situation concerne les ressources en dirigeants. Quand des paroisses et des branches n'ont pas suffisamment de dirigeants pour remplir tous les postes, elles doivent simplifier l'organisation et les programmes, en les adaptant à la taille et aux besoins de l'unité, comme dans l'exemple excellent que le président Herring nous a donné. Le nouveau manuel réduit déjà le nombre d'appels recommandés, mais quand les dirigeants sont peu nombreux, d'autres simplifications peuvent être nécessaires. Elton Perry a parlé de ce principe dans la première diffusion de la réunion de formation mondiale. Nous n'essayons pas de faire correspondre la paroisse au schéma organisationnel. Nous réduisons le schéma organisationnel pour correspondre à la paroisse. Enfin, les conditions de sécurité. Il y a des endroits dans le monde où le crime ou l'instabilité politique rendent dangereux les déplacements le soir. Dans ces endroits, il est tout simplement impossible aux branches et aux paroisses de prévoir des activités ou des réunions pendant la semaine de travail qui dure 6 jours dans certains pays. Par conséquent, il serait approprié que ces unités tiennent des activités d'échange, par exemple le dimanche. Dans ce cas, les jeunes ne participeraient pas à des activités telles que le sport ou la natation qui enfreignent le sabbat, mais feraient des activités plus calmes et d'apprentissage qu'une famille peut faire chez elle le jour du sabbat. Frères et sœurs, des adaptations appropriées n'affaiblissent pas l'Église, elles la fortifient. Nos dirigeants locaux ne doivent pas avoir le sentiment qu'en les faisant, ils se contentent de moins que l'idéal. Ils doivent savoir que chaque unité de l'Église a accès à la doctrine, aux ordonnances, au pouvoir de la prêtrise et aux dons de l'Esprit nécessaires au salut et à l'exaltation des enfants de Dieu. Le Seigneur a dit, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. »